Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Cop Gone spécial Coupe de France aujourd'hui avec Edouard G pour nous accompagner comme tous les lundis. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Nos invités, donc là c'est les quatre fantastiques autour de la table. Norvan Derderian déjà.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir coach Ali Monnet, Maxime Feuillet, journaliste à Lyon Décideur.
Bonsoir Hugo.
Et puis notre héros du soir, Patrick Gonzalez.
Bonsoir Hugo.
Président de l'AS Saint-Priest dont on va voir les buts hier. Tout de suite, cette victoire haut la main, donc 4 buts à 1 face à Romorantin. Regardez l'ouverture du score de Morgan Potier sur coup franc. 4 minutes plus tard, Marco Essimi qui double la mise. Puis Sacha Mila en sortie de vestiaire là, sur cette mauvaise relance. Et Morgan Potier qui clôt le spectacle à Jacques Joly avec 4 buts à 1. Donc on va écouter les supporters tout de suite. Avant de voir ce beau maillot là. Oh, il est magnifique en plus. Ah, hein.
Je suis super content.
T'en penses quoi de leur parcours?
Bah, c'est une bonne prestation, le petit poussé. Hein.
On est très fiers d'eux, on s'est pas déplacé pour rien, on n'a pas payé pour rien, on est fiers d'eux. Ouais. Très fiers d'eux. Je trouve ça incroyable, moi, ouais. D'aller aussi loin.
Pour une N3, voilà. N3 quand même, ils jouent contre des gros clubs, etc. Là, ils sont en 8ème.
Je trouve ça super beau, surtout que ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'en 16ème. Et là, on fonce en 8ème à fond.
Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais.
Vous êtes fiers d'eux,
ouais. On est fiers, ouais.
Bon, Patrick, qui a amené ce merveilleux maillot.
T'as encore de la voix?
Un petit peu. C'est dur, hein. J'espère qu'elle va revenir demain, ma voix. Mais pour quel moment, quelle émotion.
Bah oui, j'allais dire, c'est l'aventure d'une vie, là, quand même.
Bah oui, je ne sais pas si nous arriverons à reproduire cela, ou moi-même, en tant que président. Mais nous avons battu un record. Donc, on avait égalé la semaine passée, enfin la semaine d'avant, 16e de finale. Aujourd'hui, nous avons écrit les pages du livre d'or de l'AS Saint-Priest, 8e de finale. Et pourquoi pas aller encore plus loin?
Bon, mais on espère, on va en parler.
Et il s'est tout maîtrisé.
Ah ouais, non, mais c'est impressionnant.
Parce que j'étais dans le vestiaire après. J'ai réussi à rentrer.
Les coulisses.
Important. Et donc, bien évidemment, vous imaginez, ça crie. Puis à un moment donné, il y a président. Voilà, on demande une prime.
On voit les images. Et on n'a pas le son, mais on voit les images.
Il est pas loin. Et en fait, il me regarde et il regarde d'autres journalistes. Et il dit, non, je peux pas vous répondre, il y a la presse.
Oh là là.
Je trouve que c'est fourbe.
C'est un peu fourbe. Non mais Edouard, quand même, c'est un exploit qui continue. On voit sur ces images, en plus, ces scènes de liesse d'Edouard G. Hein,
d'ailleurs,
dans le vestiaire, qui est aussi là ce soir, pour une autre fête en plateau. C'est une équipe magnifique, en plus, Edouard, au-delà de cet exploit.
Ouais, parce qu'en fait... Patrick, tu me diras pas le contraire, mais on sent vraiment une bande de copains qui est dans une aventure, qui se prend pas la tête. Il y a pas de mise au vert la veille. Michael Napoletano dit voilà, rendez-vous hier, c'était 15h15, comme un match normal. Ils sont dans une aventure, 8 qualifications parce que ça a commencé le 16 septembre.
Ça a commencé en septembre, troisième tour,
8 matchs, 8 victoires. 41 buts, je crois.
41 buts. Ouais,
41 buts.
Pour avoir c'est ça, c'est pas un record. Hein.
Ouais. C'est quoi le secret de ces...
Bah, je sais pas. C'est, alors déjà, d'une part, c'est notre coach aussi, qui arrive à mettre en forme une équipe, mais soudée, humaine. C'est un vrai collectif.
Ça sent sur le terrain.
Ah, mais ça sent sur le terrain. Et puis dans les vestiaires, puis en dehors des vestiaires, ils sont ensemble, ils font plein de choses ensemble. Il y a vraiment, humainement, quelque chose. Et celui qui joue, il est là. Celui qui ne joue pas... Il est là, celui qui est blessé depuis des mois, il est là. Et celui qui est remplaçant, qui ne rentre pas, est toujours là. Il est avec tout le monde. Donc il y a une osmose, il y a quelque chose qui se dégage que je n'avais pas vu depuis plusieurs années.
Mais justement, parce que la Coupe de France est souvent un moment et puis toutes les planètes sont alignées. Là, oui. Qu'est-ce qui fait que cette année, elles sont alignées, les planètes?
Je sais pas, il y a quelque chose de fabuleux, mais je pense aussi que ça vient de notre formation, là, parce que je vois même chez les jeunes, des U15 jusqu'au 18, on est parmi les premières places. Mmh. Et le sport étude nous fait énormément de bien, et puis il y a un gros collectif vraiment soudé, et puis il y a un moral à toute épreuve. Mmh. Ils arrivent à passer Coupe de France, championnat, Coupe de France, et se remettre en question tous les dimanches. Mentalement, il faut être très fort, très costaud.
Avec un petit geste, on a vu aussi, tous avec Charlie, oui. L'un de vos joueurs, qui a... un énorme problème médical. Je sais qu'hier soir, après le match, vous l'avez appelé en visio. Oui. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ça soude aussi un groupe.
Charlie Pereira, l'âge, qui était ancien joueur professionnel, qui est arrivé chez nous au mois de juillet. Il jouait, il commençait à jouer. Il avait du mal à se déplacer. Sa jambe, il n'avait pas de force, etc. Il fait un check-up, tumeur au cerveau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et avec les joueurs, il s'est fait opérer vendredi. Voilà, on l'a eu en visio, on pensait pas, j'ai eu sa maman et son papa. Donc je lui fais un petit clin d'œil parce que le match était pour lui. Et sa maman et son papa m'ont appelé, ça va super bien. Je l'ai eu après le match, super. Je l'ai eu incroyable, il peut sortir demain de l'hôpital. J'ai jamais vu ça, tu mets au cerveau.
Que des bonnes nouvelles.
Que des bonnes nouvelles.
Notamment celle-là.
Et on va lui faire, normalement, le coup d'envoi sera tiré par lui, j'espère, le 7 février.
Contre Valenciennes. On va revenir sur Valenciennes juste après. Norvan Limonet, il avait connu ça il y a quelques années, cette épopée en Coupe de France. C'est quoi le conseil là dans ces moments? Comment on fait pour profiter et à la fois se dire que l'exploit est encore possible?
Bah déjà, moi, je félicite Toussaint-Priest, Patrick et puis Mika qui a fait un gros travail. Tu parlais de formation. Il y a aussi le fait d'avoir un coach qui était sur les jeunes la saison passée, qui faisait un travail déjà remarquable sur les principes de jeu, sur la gestion humaine. Donc ça s'est confirmé cette année. Et après, pareil, c'est deux aventures différentes. Moi, j'étais pas encore au club. Mmh. Je suis arrivé juste après. Mais je pense qu'il faut des étincelles. Donc automatiquement, il faut un petit peu de réussite sur le parcours. Il faut que ça tourne bien.
Chance.
Là, un petit peu de réussite, ouais. Et puis de pouvoir combiner championnat et coupe, c'est quand même le gros dilemme. Et
surtout quand on commence la coupe en septembre.
Hein. C'est ça. Ouais. Donc ça se passe bien aussi sur les deux tableaux, un petit peu.
Ça se passe plus que bien, ouais.
et je pense que tu parlais de jonglage. C'est aussi ça qui fait la force, le fait de pouvoir concerner tout le monde. Ça amène des dynamiques qui peuvent être parallèles.
Mais Maxime, le petit pousset qui, en Coupe de France, poursuit son aventure, ça amène toujours un parfum, un peu d'enfance. C'est des bons souvenirs.
Ce sont que des belles histoires. On avait peut-être un peu de déception au moment du tirage au sort de ces 16e de finale, de voir Saint-Priest. Je pense que toute la région lyonnaise attendait un adversaire peut-être un peu plus gros, peut-être une Ligue 1, peut-être une Ligue 2. On était déçus de voir Romorantin, ce club de National 2, opposé à Saint-Priest. Là, on était contents aussi hier. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters, même de l'OL, qui attendaient peut-être un derby.
Un derby, ça aurait été pas mal.
On aurait adoré voir ça, mais ce serait une belle fête aussi face à Valenciennes.
Oui, je vous vois pas le prochain tour.
Bon, Valenciennes, alors comment dernier de Ligue 2, une victoire en 20 journées. On a l'impression que l'exploit, il est encore possible. Hein.
Tout est possible en Coupe de France. Alors, je veux dire, on va être à 50-50, parce qu'on va essayer de jouer sur nos terres. Aujourd'hui, notre stade, il n'est pas homologué, donc on essaie de trouver un terrain de repli. Par rapport à la fédération, il faut qu'on donne tout avant mercredi midi. Donc c'est exceptionnel quand même. Hein.
Alors justement, ce soir sur ce plateau, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lieu du match?
Pour l'instant, je n'ai pas encore de certitude. On avance.
Ça ne sera pas dans le Rhône.
C'est
pas impossible.
Impossible. Donc on est du côté de Bourgoin, au stade Pierre Rajon, et j'espère que ça va se faire. Autrement, on a aussi nos amis de Bourg-en-Bresse, au cas où, qui nous aideraient. Donc je remercie déjà les deux clubs, c'est important, les présidents. On aimerait bien jouer du côté de Bourgoin parce que c'est à côté de Saint-Priest, c'est à 20 km.
Voilà,
et à Bourgoin, Bourg-en-Bresse, pardon, 100 km de Saint-Priest. Donc on aura plus de disponibilité pour nos supporters pour aller à Bourgoin et non pas à Bourg-en-Bresse.
Juste pour expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que le stade Jacques Joly n'est pas compatible avec le
8e? Il est homologué national 1, sur tout ce qui est lumière, luminosité, il n'y a aucun souci. Simplement, il manque des tribunes. Et on voulait mettre des tribunes démontable, ce n'est pas possible.
Voilà. C'est pas possible.
Non.
Donc Bourgoin, piste privilégiée en tout cas.
Oui.
Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de coups de fil, c'est une journée.
Oui.
Faut le gagner ce match parce que sinon, ce match des coulisses, faut le gagner, sinon le match va avoir lieu à Valenciennes.
Ah oui, on veut certainement pas aller à Valenciennes et j'ai pas envie d'aller jouer là-bas. Hein. en étant petit poussé, vous déplacer contre une Ligue 2, chez une Ligue 2, quelle chance avez-vous aussi? Tout est possible. Hein. Mais on aura plus de chance chez nous, à côté, que d'aller à Valenciennes.
Ouais, et puis moi, je veux juste souligner, hier, c'était magnifique, tous les bénévoles, parce que c'est vrai que, c'était une jolie désorganisation parfois, mais c'est des bénévoles, il y avait des sourires, il y avait vraiment des belles choses, et franchement, c'est quoi, une centaine de bénévoles du club, là, il y a une mobilisation de beaucoup de personnes de l'ombre, ça aussi, ça fait partie de l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire, je voulais les remercier déjà, parce que sans les bénévoles, nous ne saurions rien, les bénévoles, les salariés, les éducateurs, les membres du comité directeur, enfin, tout le monde était en adhésion complète pour cette Coupe de France.
Et en surchauffe hier.
Et en surchauffe. Voilà, en surchauffe. De partout, ça courait et c'était. Mais quelque part, à la fin, ça s'est très très bien passé. Les délégués nous ont félicités. Pas de débordement. Donc, c'est ça. Une belle soirée de football, comme on aimerait en avoir tous les jours.
Ah, bah, ça c'est sûr. Edouard, est-ce qu'on peut y croire alors contre Valenciennes?
Ah, bah,
je disais dernier de Ligue 2.
Oui, et puis en plus, on peut imaginer que Valenciennes, à un moment donné, c'est plutôt le championnat qui est important. On peut imaginer. Voilà, il se passe tellement de choses. Et puis là, l'équipe a rien à perdre. Je vois les ailiers hier, ils ont mis un sacré foutoir. Donc on peut imaginer que ça peut aussi le. Puis derrière, vous avez quand même des. Il y a des. Ouais, voilà, à tous les postes, il y a quand même des. Ouais. C'est au-dessus de la Nationale 3 quand même, un peu, Patrick, hein, ton niveau. Voilà, donc ça peut se niveler. Et puis là, il y a quelque chose qu'en fait. Voilà. Il
bon, mais si on croit à la magie, la Coupe de France.
Oui, ouais, ouais.
Bon. On va voir, on va poursuivre la discussion juste après une courte pause. Et puis on va parler de l'OL aussi, qui s'est aussi qualifié et qui affrontera un autre morceau du Nord. Alors messieurs, parlons de l'OL, qualifié également pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. On va tout de suite voir les images du match donc contre Bergerac. À Limoges, avec Maxence Caqueray, le buteur.
Libérateur.
Libérateur, exactement. Voilà, cette belle ouverture du score.
Avec Malik Sarr.
Malik Fofana, la dernière fois. C'est pas ça. Et là, on voit cette demi-volée, Maxence Caqueray. Oh, elle est belle, celle-là.
Une petite douceur.
Voilà.
Et on va écouter tout de suite le coach, Pierre Sage, qui nous donne son ressenti après le match.
C'est une qualification avec des valeurs, du sérieux, mais peut-être pas le jeu qu'on attendait. De toute manière, on se considérera guéri quand on aura atteint notre objectif. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. L'objectif aujourd'hui, c'était de se qualifier, mais ça reste un objectif à très court terme. Et notre objectif en championnat, c'est de nous maintenir. Donc pour l'instant, on n'est pas guéri. On sera guéri quand on sera maintenu.
Bon, Edouard, le principal, c'est la qualif hein, dans ces cas-là.
Ouais, parce que là, c'est quand même au bout de l'ennui. Alors, je veux bien qu'il y ait le terrain. Certes, ça joue
au
quand même.
Au bout de Limoges aussi.
Hein. Ouais, au bout c'est de Limoges. Ouais. Mais non, c'est, franchement, ouais, l'essentiel, c'est la qualification dans ce moment-là. Mais c'est pas avec ça que tu te rassures. Tu te rassures simplement en disant voilà, t'es en huitième de finale. Quelque part, la logique est respectée aussi au niveau ranking. Mais il n'y a que ça pour nous rassurer. Quand on voit qu'il y a quand même 2-3 autres équipes professionnelles qui se sont fait un petit peu.
Exactement.
Voir. Plus que batailler, hein, parce qu'il y en a qui ont été éliminés. Bon, on va retenir ça, mais il va falloir montrer plus dans l'envie.
Maxime, qu'est-ce que tu retiens de ce match ?
Je pense qu'on a tous eu très peur. 4 minutes avant, le but de Maxence Caqueray, un arrêt d'Anthony Lopez qui est décisif. Je crois qu'on joue la 75e minute de jeu à ce moment-là. Et si ça fait 2-1 pour Bergerac, je pense que c'est notre histoire. À part Patrick, je pense qu'on serait un peu... tous dans le dur aujourd'hui. Donc heureusement que Maxence Caqueray vient marquer. C'est rare qu'il marque Maxence Caqueray. On retiendra la qualification. Rien que ça, peut-être le bon match de Malik Fofana aussi pour sa première titularisation.
On va en parler, mais quand même, ce match il aurait pu être plus rapidement.
Oui, mais
parce que devant c'est brouillon.
Moi je retiens le positif. Une qualification avec des jeunes joueurs qui sont intégrés. Le fait d'avoir quand même, oui, le terrain, il a compté, c'est des paramètres.
C'est dégradé au fur et à mesure du match.
Complètement. Donc voilà, peut-être que dans quelques tours, si ça se passe bien, ça sera un lointain souvenir et ça fera partie de la bonne marche. Donc non, de mon point de vue, plutôt positif.
Bon, c'est du positif. On va passer au top d'abord pour commencer. Maxence Caqueray, donc mon Norvan, buteur, deuxième buteur. Et Malik Fofana, et non pas Malik Sarr, pour Edouard. Norvan a la parole.
Bah, je continue sur l'aspect positif. Mais on a souvent reproché à Maxence Caqueray de ne pas être assez décisif, de ne pas marquer, de ne pas reproduire ce qu'il faisait quand il était en équipe de jeunes, notamment ses frappes de loin ou en équipe de France aussi. Donc là, personnellement j'ai retrouvé ça dans un moment aussi crucial et on en parlait, c'est vient mettre cette petite douceur qui fait que ça vient libérer la célébration. On voit aussi quelqu'un qui a pris plus de place,
confiance.
Ouais, plus de place dans le collectif, voilà, et puis son activité, sa finesse, son abattage habituel.
Bon, je vais pas trahir de secret si je dis qu'Edouard pensait aussi mis Maxence Caqueray dans ses tops, mais il y a aussi Malik Fofana.
Je suis allé dans la difficulté, donc j'ai pris Malik Fofana. Non, c'est vrai que bon, on l'attendait, première titularisation à 18 ans, et je l'ai trouvé vraiment dynamique, je l'ai vu moteur dans 3 rôles offensifs différents, buteur aussi, ce qui ne fait pas de mal pour la confiance. À 18 ans, j'ai trouvé aussi dans ses paroles beaucoup de maturité. Voilà, cet international belge est vraiment à revoir, et quand on marque d'entrée dès sa première titularisation, ça peut vraiment bien faire un joli baptême.
Ça peut faire un joli baptême. Maxime, Cacré ou Fofana?
Je vais donner le point à Edouard. C'est rare de le voir batailler contre Maxence Cacré.
Ah, ça c'est sûr. Allez, point pour Edouard. Les flops, vos flops, messieurs. Alexandre Lacazette pour Maxime. C'est vrai que c'est rare qu'il soit dans les flops. Et Adrielson, recrue brésilienne, donc défenseur central pour Edouard. Maxime.
C'est très rare de le mettre dans les flops, Alexandre Lacazette. Ça me rend triste de le mettre dans cette catégorie-là. On parlait du match qui pouvait être plié très tôt, ce match face à Bergerac. Je pense qu'Alexandre Lacazette, il a tout raté ou presque dans sa première période. Il y a cette magnifique passe décisive pour Malik Fofana, on l'a vu à l'image tout à l'heure. Mais à part ça, c'est que des approximations dans son jeu, des contrôles ratés, des frappes qui sont passées au-dessus. J'ai l'image d'une frappe du gauche en fin de match qui s'envole. Alors certes, la pelouse, on l'a dit, n'était pas très très praticable, mais il y a aussi eu un match d'Alexandre Lacazette assez décevant, et c'est à souligner. On voit l'arrivée de Gift Orban. Peut-être celle de Karim Benzema, c'est peut-être le sujet du jour.
Les recrues dont on va parler juste après.
Rêves, mais j'ai été un petit peu déçu par ce match d'Alexandre Lacazette vendredi soir.
Un demi-flop parce qu'il a fait un demi-match, Adrielson. C'est vrai que c'était peut-être pas forcément un cadeau de lui faire titulariser.
Première titularisation.
Sur un terrain, voilà, on en reparle, mais surtout lui qui avait arrêté son championnat le 7 décembre au Brésil. Donc il y a eu la trêve. Alors lui, il n'a pas fait comme Lucas Perry, il n'a pas pris des kilos, mais il a perdu quand même. Il a quand même.
Nouveau gardien de l'OL.
Voilà, il a quand même perdu un petit peu de sa présence physique. Et puis il faut des repères. Et là, on a clairement vu qu'il n'en avait pas. Et dès la quatrième minute, une énorme faute, du coup un carton.
Ce qui pénalise aussi son match.
Alors, exactement. Donc c'est un demi-flop parce qu'il a fait un demi-match à revoir aussi. Mais voilà, il va falloir qu'il se mette au niveau. C'est pas simple d'arriver dans un nouveau championnat, dans un autre continent, qui plus est, en hiver pour un Brésilien.
Bon, Malik Fofana a mieux réussi sa première titularisation. Adrielson ou Lacazette en flop?
Adrielson. Adrielson, pareil, déception, parce que je trouve que le profil il est intéressant. Quand on le voit comme ça, il fait penser un petit peu à Edmilson.
Des grands noms, là. On
ouais, c'est des choses, en tout cas, c'était un ressenti perso. Mais ça ne s'est pas confirmé, en tout cas pas sur les bons côtés. Parce que le carton, il est jaune, on en parlait, l'arbitrage a quand même été assez limite, mais c'est un carton qui peut être d'une couleur différente. Et voilà, je rejoins Edouard, il faut rectifier.
Patrick, qu'est-ce qui t'inspire cette OL?
Bah, j'allais dire encore, comme l'a dit Pierre Sage, ils sont un petit peu malades. Donc j'espère que les pansements vont bientôt arriver, s'ils sont blessés. Non mais c'est important parce que contre Bergerac, l'arbitre, il aurait pu siffler un pénalty. Parce que quand on enlace un joueur dans la surface, il y a pénalty. On a beau me dire ce que l'on veut. Donc tant mieux pour l'OL, je suis content. Parce que l'OL, c'est une belle équipe, c'est mon équipe de cœur. Mais il va falloir qu'il montre autre chose. Alors c'est vrai que c'est un match de Coupe de France, c'est différent. Tout le monde peut gagner, tout le monde. Les amateurs hautes sont super motivés, surmotivés à 2000%.
Le match de leur année. Hein,
voilà. Quasiment. Et c'est vrai que les professionnels jouent contre des amateurs, ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent jouer contre des vrais professionnels. Et là, le niveau, il s'élève. Donc à partir de là, l'essentiel, la qualif. Et c'est ce que je...
Alors, justement, Edouard, prochain tour contre Lille. Là, c'est un autre morceau, quand même. Il y a deux derbies, hein. Rhône-Nord, hein, vous noterez.
Ouais.
Donc là, ça sera à 18h30 le mercredi. Bon, déjà, l'horaire n'est pas forcément idéal. Ça risque d'être compliqué contre Lille. Hein.
Oui, ça va être compliqué. Puis ça va faire le troisième match à domicile de suite. Parce qu'il va y avoir Rennes, il va y avoir Marseille et il va y avoir Lille. Alors c'est peut-être un détail, mais c'est vrai que certains joueurs disent que voilà, déjà gagné deux fois de suite. Alors est-ce que le championnat ça va être plus important que la coupe? En tout cas, il va falloir essayer là à domicile. Au moins il y aura la pelouse qui sera bonne parce qu'elle est toute neuve, toute changée. Il aura eu deux matchs dans les jambes, on va dire, face à un adversaire du même niveau, des professionnels. À la maison, il va falloir essayer de passer et de continuer.
Est-ce que c'est une priorité, la Coupe, aujourd'hui, quand on voit le classement de l'OL et la situation en championnat?
Je ne sais pas s'il n'y a rien d'autre. Donc, il faut, pour se mettre un petit peu de... Parce que ce week-end a dû être quand même si la prestation n'est pas bonne, il y a eu un petit peu de joie, quoi, en fait, d'une certaine manière. Une qualification, voilà. Donc, je pense que c'est quand même important d'entretenir la dynamique et puis de se mettre sur cette magie et puis de se dire, voilà, le prochain objectif, c'est de prendre Saint-Priest.
Exactement.
Exactement. Un quart final, un petit derby.
Ça serait exceptionnel. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a plus l'OM. Ah, nos amis martiniens sont plein et l'OL est là, donc c'est une bonne nouvelle.
Ah ben ça, il y a qu'un seul Olympique.
Exactement.
De toute façon. Ouais,
ah.
Bon, je vous rejoins et simplement pour compléter, c'est peut-être aussi le seul moyen d'être européen la saison prochaine.
Ça, c'est sûr.
Alors, c'est avec de l'ambition, mais ça doit rester dans les têtes de tout le monde aussi. Ouais.
Il reste des gros morceaux, Paris, Monaco, pour citer que. On va parler, Edouard, de cette information qui a fait saliver tous les supporters lyonnais aujourd'hui. Le potentiel retour de Benzema. Est-ce que c'est utopiste ou c'est une potentielle réalité ?
On a travaillé sur le dossier avec Fabrice Hawkins, la rédaction, aujourd'hui. On a fait un petit peu chauffer les téléphones depuis quelques jours. En tout cas, l'OL travaille sur le dossier. Voilà, John Textor a peut-être envie de faire une folie pour le faire venir. Alors, il a un énorme contrat en Arabie Saoudite qui court jusqu'en 2026. Donc,
c'est pour ça que ça se passe mal dans son club.
Voilà, donc je crois que c'était 300 millions sur 3 ans. Donc il ne va pas forcément, bien évidemment, s'asseoir à côté de ce contrat-là. Donc il faut éventuellement payer une indemnité. Il faudra payer un salaire. Donc c'est vrai que ça paraît irréaliste. Mais en tout cas, l'OL se penche sur le dossier. Et puis on imagine que s'il a plus trop envie ou si c'est plus jouable de jouer là-bas, est-ce que dans sa tête, sa priorité, ce n'est pas de revenir à l'OL, comme bon nombre l'ont fait, boucler la boucle, parce que 20 ans après, ses premiers pas, c'était en janvier 2005. En tout cas, l'OL travaille, ça paraît irréalisable, mais bon.
C'est pas un coup de com'?
En tout cas...
De dire on travaille sur le dossier Benzema, comme on dirait, on travaille sur le dossier Messi?
Ouais, mais on se dit, il y a peut-être un ballon qui traîne, il faut peut-être essayer de
le choper en vol.
De choper en vol, en fait.
Monsieur, vous y croyez, un retour de Benzema? On peut y croire?
Moi, j'y crois.
En tout cas, on sent qu'il y a des étoiles dans les yeux, là, hein, rien que d'en parler.
La mission du positivisme. Mais non, j'y crois parce que, oui, il y a contrat, mais il y a aussi possibilité de s'adapter, de trouver des arrangements. Et il y a cette volonté, au fond de lui, il a toujours été attaché à la ville, à la culture. Au 6-9 comme il le dit souvent, et moi je pense que c'est possible.
Il a présenté son ballon d'or ici, hein, donc
on s'en souvient
donc c'est vrai que
stade.
Voilà,
Maxime sur Benzema,
on a envie d'y croire. Moi j'ai peur aussi que ce feuilleton prenne un petit peu une tournure à la Didier Drogba retour à Marseille, un feuilleton dont on a longtemps parlé, dont les supporters ont longtemps rêvé, mais finalement qui se fait pas. Bon, on a envie d'y croire aujourd'hui, on verra si c'est faisable ou non.
Et pourquoi pas cet été?
En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est complexe financièrement.
C'est que financier,
c'est financier, comme le dit Patrick. Avant de finir, on va regarder les autres résultat du week-end avec Thomas Zinski.
Le sourire des vainqueurs ne quitte plus le visage des Lyonnaises. Pourtant, malgré un bon début de match hier face à Montpellier, rien n'a été simple. Selma Bacha distribue les caviars pour commencer. Vanessa Gilles ouvre le score. Ada Egerberg limite quelques minutes plus tard sur une deuxième passe décisive de Bacha. Mais voilà, dans la foulée, les Lyonnaises se font surprendre par Océane Deslandes et derrière, l'OL manque, beaucoup. Sans conséquence, finalement, 2 buts à 1, 13e victoire en 13 matchs de Deyoun Arkema pour l'OL, qui conserve 8 points d'avance sur le PSG au classement. Dans la course à la deuxième place de Betclic Elite, l'ASVEL n'avait pas le choix. Il fallait gagner pour ne pas se faire décrocher par Bourg-en-Bresse. Les hommes de Pierrick Poupé ont fait le travail et bien. Première période maîtrisée conclue avec 6 points d'avance, 48-42. Lyon-Villeurbanne accélère au retour des vestiaires dans le sillage de Mike Scott et ses 20 points. Conséquence, la lanterne rouge n'arrive plus à suivre et les coéquipiers de Youssoufa Fall s'imposent 103-79. 14e succès. En 19 matchs, l'ASVEL revient à une victoire de la deuxième place. Pas de succès de prestige sur le terrain d'un triple champion d'Europe, mais le Loup a rivalisé par séquence avec son adversaire. Cueillis à froid par les Anglais, les hommes de Gégen Bacheur réagissent en marquant 2 fois avant la pause grâce à Niniashvili et Marakou. Devant, 17-5 à la mi-temps, le deuxième acte est plus compliqué pour les Lyonnais qui encaissent 4 essais contre une seule réalisation de Marakou. Résultat, les Rodaniens s'inclinent 39-24. Si le Loup verra bien les 8e de finale en avril, il faudra se déplacer loin du Matmut Stadium pour envisager une qualification pour le prochain tour.
Bon, messieurs, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Hugo.
Merci, Patrick. On croise les doigts pour le prochain tour pendant l'ancienne.
Et que ça se fasse à Bourgoin.
On va espérer que ça se fasse à Bourgoin, évidemment. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. On croise aussi les doigts pour Benzema, hein, si on peut faire d'une pierre deux coups. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour Cap Gouin.